10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour Muriel Pénico.
Bonjour.
Ministre du Travail. La devise du gouvernement ces jours-ci, c'est « déminer ». Les syndicats grondent, menacent de bloquer le pays contre la réforme des retraites. Et l'heure, effectivement, est à la confusion. Malgré le grand débat, les Français restent éruptifs, méfiants et pessimistes. Pourtant, dans son portrait social de la France que publie l'INSEE cette semaine, eh bien, il y a une mise en avant d'une progression de niveau de vie entre 1975 et 2016. Et aujourd'hui, il faut le savoir, les entreprises créent 1000 emplois par jour en France. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Depuis le début du quinquennat, vous êtes un des emblèmes du macronisme, ancienne directrice des ressources humaines. Vous êtes une de ces expertes venues au gouvernement pour mission de transformer un pays que les partis politiques plus classiques n'avaient pas su transformer, dites-vous. Mais après 2 ans et demi au gouvernement, la question se pose avec le macronisme. Suffit-il d'être intelligent pour produire des politiques publiques capables d'améliorer la vie des gens ? C'est en ce moment votre épreuve à mi-mandat. Vous qui parcourez le pays et l'Europe, vous étiez hier encore en Suède, où on a discuté pendant 15 ans avant de changer un système de retraite. Pourquoi faut-il en 2 ans à peine l'imposer aussi aux Français ? Et comme souvent, les sociétés se transforment bien avant donc, la machine de l'État. Alors on va voir avec vous comment adapter effectivement le monde du travail à ces nouveaux codes qui parfois font aussi ressurgir des mécanismes très anciens. Pour vous interroger avec moi, donc, Nicolas Barré des Échos, Damien Fleurot de CNews. Mais avant cela, c'était à Amiens, une petite phrase du président. Encore, on écoute, on regarde.
En ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même, dans les commentaires qu'on a en permanence. On a des difficultés, on les affronte. En ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif.
Muriel Pénico, c'est une question à l'ancienne DRH. Est-ce que cette façon-là de parler aux Français, c'est la bonne méthode ?
Alors, moi, je crois que d'abord, on a... La France, culturellement, on a un avantage, ça s'appelle l'esprit critique, parce qu'on sait contester, s'interroger, questionner, et je pense que c'est une valeur culturelle forte. Mais du coup, quelquefois, ça nous amène à voir le verre à moitié vide, qu'il faut regarder en face.
Donc il a bien fait le président de la République en parlant donc, de pays négatifs.
Ben, je note que dans la même semaine, il y a des nouvelles formidables, et avec des droits nouveaux, avec des avancées. Vous avez parlé depuis deux ans, on a des progrès en matière de formation, en matière d'emploi, en matière de lutte contre les inégalités. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles.
Les mots sont importants cette même semaine aussi. Par exemple, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui dans les colonnes du JDD dit « Ne soyons pas pleurnichards ».
Pourquoi des remontrances toujours,
Non, c'est
à
pas
la
des
veille de mobilisation en plus.
C'est, je pense qu'il faut juste qu'on regarde toute la réalité en face. Moi, je suis frappée, je passe 2 jours par semaine sur le terrain, partout en France, depuis 2 ans et demi. Eh bien, je peux vous dire que je vois aussi des tas de gens qui voient des choses positives. Après ça, on n'en parle pas forcément dans les réseaux sociaux. Et un peu à la télé, mais pas beaucoup non plus. Donc, je crois qu'aussi, on a tous notre responsabilité là-dedans et qu'il faut regarder les problèmes en face, les traiter sur le fond. Il y a des problèmes de fond qu'il faut traiter pour des années. On va reparler des retraites, de la santé, de la formation, de l'emploi. Et puis, il y a des sujets d'urgence qu'il faut traiter aussi. Et je crois qu'il faut juste qu'on accepte tous de se dire que et le positif et le négatif, ça fait partie de notre vie, de notre bien commun.
Regardez, il faut tout regarder. Nicolas Barré.
Dans ce climat, la France s'attend à une journée quand même dure le 5 décembre et peut-être les jours suivants d'ailleurs. Alors, dans les entreprises, tout le monde se prépare, RTT, télétravail et autres. Est-ce qu'il faut réquisitionner les grévistes, comme le réclame Bruno Retailleau au nom de la droite ?
Alors d'abord, je voudrais passer un message aux employeurs et aux salariés, ça fait beaucoup de monde dans ce pays, pour leur rappeler que depuis les ordonnances travail, le télétravail est un droit et qu'il suffit d'un simple échange d'email entre le salarié et l'employeur. Donc ce jour-là, je pense, tous les métiers ne s'y prêtent pas, mais il y a beaucoup de métiers où ça s'y prête. Mmh. Donc il ne faut pas demander aux gens de faire des acrobaties pour faire 4 heures de blocage. Non, mais j'ai juste que... Et je demande aux employeurs d'être compréhensifs là-dessus. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer le 5 septembre ? C'est essentiellement dans les transports publics, oui, notamment dans les grandes villes. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout certains qui défendent leurs régimes spéciaux, qui ne sont pas les mêmes que les autres. Je rappelle qu'un chauffeur de bus à la RATP et un chauffeur de bus dans une ville de France,
oui, on va y venir,
il
n'y
a pas les mêmes.
Mais qu'est-ce que vous dites aux chefs d'entreprise ?
Oui, ça va avoir beaucoup de mobilisation le 5, ça c'est sûr. Et je dis aux chefs d'entreprise d'être compréhensifs avec leurs salariés. Aujourd'hui, il y a des formes de travail à distance. Il ne faut pas, ce jour-là, demander aux gens de faire l'impossible. Voilà,
vous vous attendez à des mobilisations au-delà du 5 ?
Écoutez, vous avez une boule de cristal ? Moi, pas. Ce dont je suis certaine, c'est qu'il faut là aussi, regardez les choses en face. De quoi on parle quand on parle de la réforme des retraites?
Sur les réquisitions des agents des entreprises de transport, SNCF, RATP,
Il y a des règles sur le service minimal. Pas plus, pas moins. Il faut appliquer les règles. On ne va pas inventer des règles pour le 5 décembre.
Lui dit réquisition.
Oui, moi je dis qu'il y a des règles et qu'on les applique, pas plus, pas moins.
Muriel Pénicaud, est-ce que vous êtes beaucoup sur le terrain. Est-ce que vous sentez ces jours-ci, au fond, la société française prête aussi à en découdre? Est-ce que les salariés du privé se sentent prêts à, au fond, donner une délégation de grève aux employés du public, comme on l'avait vu en décembre 1995?
D'abord, moi, ce que je constate, c'est que le climat social dans les entreprises, depuis une dizaine d'années, et c'est de mieux en mieux, il est plutôt constructif. Évidemment, sauf quand on ferme une usine ou un site, et là, c'est normal, les gens défendent leur job. Mais il est plutôt constructif. Donc, je crois que ce n'est pas là qu'il y a des inquiétudes, c'est plus dans les régimes spéciaux, qui sont plutôt dans le secteur public ou parapublic. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il faut répondre à cette grande question. Pourquoi on fait des réformes? Et cette réforme des retraites, qui était un engagement du président de la République dans la campagne, elle est importante parce qu'il y a des inégalités aujourd'hui. Les femmes sont assez sacrifiées. Je rappelle qu'il y a 31% d'écart encore aujourd'hui qu'on arrive à la retraite entre les femmes et les hommes. Ça fait partie de mes grands combats sur l'égalité professionnelle homme-femme. Mais aussi, c'est un système entre générations. Donc, le système de répartition, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont payer nos retraites là, à nous. Et donc, il faut, si on ne pas faire la réforme, c'est pénaliser la jeunesse. Donc il faut aussi qu'on se le dise entre nous et qu'on ose se dire qu'est-ce qu'on met en place comme système qui est à la fois juste entre les catégories et juste dans le temps, pour que ce ne soient pas les jeunes qui, en plus de l'écologie, se payent
à ce sujet, bien évidemment, à ce sujet, bien évidemment, on prendra encore du temps pour en parler. Damien Fleurot.
Oui, vous dites le climat social, les négociations, les discussions avec les partenaires sociaux, c'est plutôt constructif dans les entreprises. Enfin, on voit aussi des syndicats qui refusent d'aller à la table des négociations, notamment sur la réforme des retraites. C'est pas un peu votre échec aussi? C'était le contrat de départ de parvenir à un dialogue social apaisé.
Un syndicat qui ne va pas à la table de discussion.
C'est peut-être un trop.
Après,
déjà.
Le Premier ministre il ouvre sa porte, le gouvernement ouvre sa porte. Il reçoit de nouveau les partenaires sociaux avec Jean-Paul Delevoye à partir de demain sur le sujet. Ça fait 18 mois qu'on discute. Et d'ailleurs, si on n'avait pas pris le temps de discuter, vous nous reprocheriez, à juste titre, de court-circuiter une concertation.
Mais enfin,
qui
on voit bien que les syndicats
longue.
Se mobilisent. Votre projet de départ, pour reprendre ce que disait Damien à l'instant, votre projet de départ était quand même de dire on va faire évoluer le dialogue social. On va aller vers le compromis. On va sortir de la tradition de confrontation. Là, manifestement, ça ne fonctionne pas.
Quel est l'objet de la mobilisation du 5? C'est pas la réforme de retraite, puisque nous ne l'avons pas encore annoncée. On a donné des grandes orientations. Le système par points, qui est la seule manière de faire juste entre les catégories et dans le temps. La situation des femmes, la pénibilité, l'emploi des seniors. Mais on a donné des grands thèmes. On n'a pas dit exactement comment ça va être, parce qu'on prend le temps de cette concertation. Ensuite, quand nous aurons annoncé la réforme, il y aura les pour et les contre. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont contre, parce que pour les régimes spéciaux... qui sont déficitaires, là, ils savent que ça va changer pour eux. Et puis, il y a aussi des gens qui sont anxieux, parce que c'est normal, dans toute réforme, il y a une anxiété, et ça, il faut l'entendre.
Marine Le Pen,
alors justement, sur le climat, Nicolas Barré.
Marine Le Pen, qui soutient après, ce mouvement du 5 décembre, ce n'était pas le cas lors des précédentes
grèves. J'ai vu que Philippe Martinez a aussi répondu à ça. Philippe Martinez fait bien la distinction entre le mouvement syndical, le patron de la CGT, il fait bien la distinction entre un mouvement syndical et des récupérations politiques.
Le Parti Socialiste appelle aussi à se mobiliser le 5 décembre.
Oui,
n'est pas le rôle aussi de ces organisations.
Je veux dire.
Donc ils veulent aller au-delà
de
la critique.
J'ai beaucoup. Maintenant, je voyage beaucoup en France, mais j'ai aussi beaucoup voyagé dans le monde. Je suis tellement fier qu'on soit un pays. Oui, où tout le monde est libre de manifester. Mmh. Enfin, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a.
Et d'ailleurs, les Français donc, soutiennent ce mouvement de mobilisation du 5 décembre, majoritairement.
Moi, je ne sais pas, nous verrons. Mais ce qui est certain, c'est que oui, il y a une certaine anxiété. Parce que, encore une fois, le débat va être différent quand nous aurons donné de façon beaucoup plus précise. Mais pour ça, il faut finir les concertations. On ne décide pas seul dans notre coin. Enfin, le Premier ministre, Jean-Paul Leloy, tout le gouvernement qui est impliqué.
Le président du MEDEF vous demande de donner ces éléments-là avant le 5 décembre.
Oui, après, il a son appréciation. J'ai vu, il a son appréciation sur le calendrier. Vous permettrez au gouvernement d'avoir son appréciation sur le calendrier.
Au fond,
bien sûr qu'à un moment donné...
Muriel Pénicaud, au fond, vous vous apprêtez à vivre la confrontation sociale qu'a connue tout pouvoir lorsqu'il entame une réforme. Ce moment-là, vous l'assumez, vous dites il faut une confrontation démocratique pour montrer au pays que les réformes passent.
Non, il ne faut pas. Moi, Je suis assez fier que les ordonnances travail et la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle ont fait une révolution. Et ma santé 2022, c'est des réformes qui passent. Qui passent sans qu'il y ait un conflit. Pour moi, le signe de la réforme, c'est
pas qu'il y ait de la conflit. Il y a quand même un...
C'est le contraire. Non, le sujet est sur les urgences. Mais sur la main santé 2022, que porte Agnès Buzyn avec le Premier ministre et le gouvernement, ça a été voté au Parlement et il y a un certain consensus. Simplement, ça met du temps à changer l'hôpital qui
donc
est.
Donc vous dites, vous, le conflit n'est pas le marqueur de la réforme réussie.
Non, mais le marqueur, c'est par contre, c'est de faire des réformes justes pour le pays et pour les Français. Et ça, elles ne peuvent pas toutes être à court terme. Il y a des réformes à long terme. Et c'est normal que la réforme des retraites, ça soit une des plus. Qui crée le plus de questions. Pourquoi ? Parce qu'elle concerne, les jeunes qui ont 20 ans, même je dirais ceux qui vont naître l'année prochaine, et elle concerne, alors elle ne concernera pas les retraités, mais elle concerne quand même les actifs. Et donc, c'est logique que c'est une réforme comme ça, qui est de très long terme, elle pose la question. Mais quand on parle de la transition écologique, c'est pareil, on doit faire des arbitrages entre comment on passe à une économie décarbonée, mais en même temps, que les agriculteurs aient le temps de s'adapter, qu'on puisse transformer la construction.
Il y a tous les sujets en même temps.
Il y a tous ces sujets du long terme et du court terme, je crois que c'est ça l'enjeu politique aujourd'hui. C'est comment on relie le long terme et le court terme.
Juste une question avant que l'on reprenne dans quelques instants. Le niveau du climat social, on sent quand même les syndicats se durcir. Est-ce que l'arrivée peut-être de gilets jaunes à l'intérieur ou d'esprit gilets jaunes à l'intérieur de ces centrales ne vous inquiète pas ?
Bon, d'abord, vous avez vu, dernier week-end, que aujourd'hui, ce n'est plus des gilets jaunes, hein. C'est des casseurs. C'est très différent du mouvement il y a un an où il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient avec des revenus précaires et qui ont assez vite parlé de pouvoir d'achat. On a répondu à ça avec la d'urgence du 24 décembre dernier et avec le grand débat. Aujourd'hui, parce que ils osent se dire gilets jaunes, pour moi, des gens qui sont là juste pour casser. Ils sont pas là pour construire. Donc, je crois que là, il faut distinguer vraiment les sujets. Il faut pas tout mélanger parce que c'est pas vrai, c'est pas la même chose. Après, comme je dis, le 5 septembre, c'est surtout le 5 décembre. Décidément, je
vois. Si vous aimez bien le 5 septembre, mais ce sera le 5 décembre.
C'est surtout les régimes spéciaux dans les transports qui sont l'enjeu. Et après, on verra. Mais encore une fois. Je crois que c'est qu'en allant au fond, en prenant le temps de discuter, puis à un moment donné, on va dire les choses.
Alors justement,
et là, on aura une autre discussion.
Quel type de réforme sera-t-elle enterrée ou pas ? On se retrouve tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et surtout notre invité, Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Laurent Berger, le patron de la CFDT, était l'invité de la matinale d'Europe 1 ce vendredi. On écoute, on regarde.
Si le gouvernement a une vision purement financière parce qu'il dit que son obsession, c'est soi-disant de réduire le déficit des systèmes des retraites, eh bien, il fait une profonde erreur.
Alors, Muriel Pénicaud, la CFDT somme le gouvernement de sortir de l'ambiguïté, c'est ce que dit Laurent Berger sur cette réforme des retraites. Oui, à une réforme de fond, mais non à une réforme purement financière. Est-ce que ce matin, vous allez sortir de l'ambiguïté ?
Alors, d'abord, c'est quoi l'enjeu de la réforme des retraites ? Aujourd'hui, on a un système qui n'est pas universel, donc qui n'est pas égalitaire. Je pense qu'en France, l'aspiration égalitaire, c'est quelque chose de très profond dans notre histoire, dans nos valeurs, au fronton de tous nos bâtiments publics. La sécurité sociale, c'est la même pour tous, pas les retraites. Donc on a un premier sujet, est-ce qu'on est tous d'accord, français, qu'il faudrait que pour le même euro cotisé, pour la même carrière, on ait la même retraite. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxièmement, on a un système de retraite parce qu'il est fractionné en plein de régimes différents, 42, qui ne permet pas de prendre en compte les évolutions professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être salarié, demain indépendant. Et donc tant qu'on n'a pas un système universel par points, on ne peut pas le prendre en compte. Ensuite, il est injuste, notamment pour les femmes, qui s'arrêtent plus que les hommes jusqu'ici pour s'occuper de leurs enfants. Et maintenant, ce qui sont souvent aidants, 80% des aidants envers nos aînés, ce sont des aidantes ou des personnes handicapées. Donc, le statu quo, ça veut dire garder un système qui est injuste, qui est injuste dans le temps, qui ne sera pas tenable financièrement puisque le comité d'orientation des retraites annonce 10 milliards de déficits dans les 10 ans qui viennent et qu'on laissera aux jeunes en héritage d'une façon intenable.
Mais
des raisons quand même de faire une réforme de fond qui n'est pas une réforme purement financière.
Ce que vous dit la CFDT, c'est oui, on connaît les défauts du système, oui, il faut réformer le fond, Mais en même temps, vous, le gouvernement, vous essayez de faire passer une réforme financière avec, en bougeant des paramètres sans dire exactement lesquels.
Il nous veut juste que le système de retraite il soit robuste, égalitaire, juste, et qui fonctionne dans la durée. Et pour ça, le but n'est pas financier. Après, si votre régime il est en déficit, comment vous faites pour payer les retraites ? Donc, il faut bien mettre à l'équilibre le régime. Mais le but, encore une fois, c'est d'avoir un système universel qui permet les mobilités professionnelles, qui ne pénalise pas la jeunesse et qui permet de traiter les situations de pénibilité, les situations de carrière hachée, notamment pour les femmes. Bref, qui soient plus justes, qui correspondent mieux à nos valeurs. Et donc, tout ça, évidemment, on ne nie pas l'aspect financier. Mais ça n'est qu'une conséquence.
Mais on voudrait mieux comprendre encore. Damien Fleurot.
Emmanuel Macron, qui estime que ce mouvement-là du 5 décembre porte essentiellement sur la défense des régimes spéciaux. Agnès Buzyn, qui qualifie les revendications des syndicats, qui appelle à la mobilisation de corporatistes. Vous, cette mobilisation, vous la qualifiez comment du 5 décembre ?
C'est un mouvement étrange ?
Je pense que tout simplement, c'est ceux qui appellent le plus à la mobilisation, c'est ceux qui ont des régimes spéciaux, et notamment dans les transports publics. C'est un fait. C'est un fait, c'est pas un jugement, c'est un fait. Donc chacun en tire les conséquences.
Il y a ceux aussi qui considèrent que le pacte social qu'ils ont passé, notamment dans l'éducation nationale, est tout d'un coup bouleversé. Ce ne sont pas que des régimes spéciaux. Quand on entend des ministres qui nous en parlent depuis des mois, ils nous disent toute la société est bougée avec cette réforme. Au fond, n'est-ce pas le risque politique majeur que vous prenez ?
Alors c'est pour ça qu'il y a des discussions à la fois sur le régime universel, comment on fait pour bâtir quelque chose qui est égalitaire et qui marche dans la durée pour nous tous. Et puis qu'il y a des discussions que Jean-Paul Delevoye et chacun des ministres concernés ont, secteur par secteur. Parce que il y a
la situation,
le sujet des retraites des enseignants, il est très différent de celui des policiers et encore plus différent de celui de la RATP. Mais bien sûr qu'il faut avoir toutes ces discussions pour voir comment on va converger. Mais est-ce qu'on est d'accord en tant que Français que le système devrait être égalitaire et pérenne ? Si oui, on discute. Et après, on discute de comment on y arrive pour chaque catégorie, pour que chaque catégorie, c'est du sens.
Alors justement, on voudrait comprendre. Nicolas Barré.
Comment on y arrive ? Est-ce que l'une des options, ça n'est pas finalement de dire que cette réforme s'appliquera à ceux nés à partir d'une certaine date, et une date qui pourrait être, rapprochée, au lieu que ce soit 1963, par exemple, 1975, est-ce que c'est une piste
le conseil, plausible ? Il y a plusieurs sujets. Le Conseil d'orientation des retraites, dans les pistes qu'ils donnent, il y en a que le président de la République et le gouvernement nous avons fermé parce qu'on pense que ce n'est pas des bonnes pistes. Non mais, je le dis quand même. On ne touche pas aux pensions des retraités actuelles.
On ne les baisse pas.
Les pensions des retraités actuelles, parce qu'il y a des pays où ils font ça. Nous, ça, on ne veut pas le faire. Et la deuxième chose qu'on veut, c'est qu'on veut que le système permette d'être une pérennité. Donc, il faut quand même tenir compte sans augmenter les cotisations. Pourquoi augmenter les cotisations ? Parce que c'est moins de pouvoir d'achat pour les salariés et un coût du travail plus important. Or, on est quand même, nous, notre priorité, c'est le travail, l'emploi et la capacité à chacun à travailler. Donc, si on augmente et si on baisse le pouvoir d'achat actuel, donc comment on fait ? Ça veut dire travailler plus, c'est ça le sujet.
Mais pour faire passer cette retraite, est-ce qu'il ne faut pas à un moment dire elle s'appliquera à ceux qui sont nés après telle date, par exemple, 1975 ?
Non, de toute façon, à un moment donné, à la fin de la concertation, oui, il faudra dire à quel moment le régime universel se met en place et à quel moment chacun des rivières rejoint le fleuve.
Mais la question, l'année 1975 est une option. Muriel Pénicaud, est-ce que pour vous, c'est une option ? Est-ce que c'est vraiment dans les tuyaux ?
Moi, répondre à cette question, c'est mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, on définit le régime universel. Après, on mesure l'écart entre tel régime particulier et le régime général, universel, qui va être celui de demain. Et là, il faut décider à quel moment. Et en général, ce genre de réforme, c'est progressif. Il n'y a pas forcément un grand soir, ça peut être aussi progressif. Mais ça, ça fait partie des négociations, une fois le régime universel posé, qui vont avoir lieu avec chacun des régimes spéciaux pour savoir à quel moment on bascule.
Ouais. Mais pour se sortir de cette situation, est-ce qu'il ne faut pas dire à un moment, cette réforme elle s'appliquera, disons, aux générations
à un moment donné, il faut le dire, oui, bien sûr. Mais encore une fois, nous, on termine les concertations. Il y a le Premier ministre reçoit de nouveau les partenaires sociaux, il va les entendre après toutes les discussions qu'il y a eu. Il y a plus de 18 mois de discussions.
Oui, mais Muriel Pénicaud,
à ce moment-là, il faudra définir aussi le calendrier.
On voudrait comprendre,
mais les modalités.
Il y a un peu de confusion quand même.
On
n'a pas terminé. Et régulièrement, des acteurs publics, et pas des moindres, Édouard Philippe, récemment encore sur les médias, est venu dire il faut dire tranquillement aux Français qu'ils vont travailler plus longtemps. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même des décisions conclusions. Donc, qu'il faut vous confirmer qu'effectivement, la mesure d'âge va aussi en transition.
Si on est tous d'accord qu'il ne faut pas pénaliser les retraités, qu'il ne faut pas augmenter les cotisations des salariés et des entreprises, pour pouvoir financer un système qui est plus égalitaire, où les femmes, où ceux qui sont aujourd'hui ont des petites retraites, puisqu'on veut augmenter aussi le minimum vieillesse, on voudrait le passer à 1000 euros. C'est une grosse différence avec aujourd'hui, net. Pour faire tout ça, il faut qu'on décide comment on va mettre ça en place. Et pour ça, une des choses qui est importante pour nous, c'est que ce soit plutôt le système du travail qui rémunère ça que uniquement l'impôt. Le système de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler plus longtemps. Mais travailler plus longtemps, moi j'en appelle aux employeurs, parce que c'est un des autres de mes combats, ça veut dire qu'il faut donner la chance aux jeunes. Parce que si on ne leur donne pas de chance avant 28 ou 30 ans, si vous commencez à travailler qu'à 30 ans, même vous ne cotiserez jamais pour avoir des bonnes retraites.
C'est pas une réforme de la jeunesse que vous mettez en place, c'est une réforme de la retraite.
Par ailleurs, donc, c'est cohérent ce qu'on fait. Ce qu'on fait sur l'apprentissage, la formation, c'est pour permettre aux jeunes l'accès à l'emploi. Et puis pour les seniors, il y a un groupe de travail emploi des seniors. Parce qu'on peut travailler plus longtemps. On travaille moins longtemps que dans d'autres pays. La plupart des pays européens, ils travaillent 1, 2, 3 ans de plus. Mais
Nicolas
par contre, il faut peut-être aménager
pour arriver
cumuler leur retraite, aménager les fins de carrière. Tout ça, aujourd'hui, on n'est pas bon en France. On évince les jeunes et les seniors du marché du travail. Et après, ils ont dit. C'est bizarre, on n'a pas travaillé assez sur le
numérique.
Mais moi, je crois qu'il faut travailler. C'est pour ça qu'il y a un lien entre notre vision sur toutes les réformes du travail, permettre à chacun d'avoir un emploi quand on est jeune comme quand on est senior. Et là, c'est là où ça pêche. Et en même temps, la réforme des retraites.
Pour arriver à votre objectif que tout ça s'équilibre, le Conseil d'orientation des retraites vient de vous dire, là, cette semaine, qu'il fallait instaurer un âge pivot à 63 ans et demi. C'est ça l'objectif?
Alors, encore une fois... Un, on est au stade où on est encore dans les concertations. Deux, l'âge pivot fait bien sûr partie des discussions avec les partenaires sociaux. Mais nous, on ne va pas sortir des petits bouts de la réforme comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'on garde l'âge légal à 62 ans. C'était un engagement du président de la République dans la campagne et ça a été confirmé. Après, tout le monde ne veut pas partir en même temps. Tout le monde ne peut pas partir en même temps. Tout le monde n'a pas la même carrière. Et il faut que ça soit juste pour chacun. Et je pense qu'on n'est plus dans des systèmes où tout le monde part le même jour, à la même heure, à la retraite. Ce n'est pas vrai. Certains préfèrent plus de temps, plus tôt. D'autres préfèrent travailler plus longtemps et avoir plus à la retraite. Il faut aussi tenir compte de ces souplesses-là. Et je crois qu'un système moderne, il permettra des souplesses et des marges de choix pour les individus.
Alors après avoir parlé des retraites, et on en reparlera, on va maintenant parler du travail dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Muriel Pénicaud, ministre du Travail, pour cette troisième partie donc, du grand rendez-vous. La France est-elle prête pour le 21e siècle? C'était vendredi à Amiens sur le site de l'usine Whirlpool avec le président de la République. On écoute, on regarde.
Bon. Vous voyez pas le pognon qui a été mis là-dedans?
Mais je sais bien.
Et au final, au bout de 12 mois...
Vous pensez que ça me fait plaisir?
Bah, je comprends pas comment vous avez été aussi naïf que ça.
Il y a un projet de reprise partielle autour d'une base logistique administrative sur ce site pour une société spécialisée dans les protéines à base d'insectes. Est-ce que c'est, au fond, l'avenir des industries, ces nouveaux emplois?
Alors déjà, d'abord, je comprends le sentiment des salariés de Whirlpool. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que depuis deux ans, on a créé 540 000 emplois nets dans notre pays, et notamment plus de CDI, parce que c'est 4 millions de contrats de CDI l'année dernière, c'est plus 16% par avant, et plus d'emplois dans l'industrie. Et pendant 10 ans, on a détruit des emplois dans l'industrie. Des nouvelles comme ça, il y en avait tout le temps, rappelez-vous. Ça tombait tout le temps, tout le temps. Là, on repart sur de l'emploi industriel. Le sujet, il y a deux sujets. Il y a comment retrouver de l'emploi industriel dans la zone d'Amiens, parce qu'on ne va pas demander aux Français, il y a quelques-uns qui sont mobiles dans toute la France. La plupart, on est attachés à notre territoire, à nos terroirs, et on le prend en compte dans les politiques d'emploi. Donc il y a des projets. Pôle emploi a une cellule spécialisée de 4 personnes. Aujourd'hui, ils ont déjà plusieurs personnes, plusieurs dizaines qui ont retrouvé un emploi. Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, va se mobiliser spécifiquement là-dessus. Il faut continuer. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, la bataille de l'emploi. Mais par rapport à votre question qui est aussi est-ce qu'on est prêt pour le 21e siècle, je crois qu'il faut tous prendre en compte qu'on ne va plus faire le même métier dans la même entreprise toute sa vie. On peut le regretter, on peut s'en réjouir parce que quelquefois, ce n'est pas l'emploi qu'on aimait et pas avoir d'autre choix pendant toute sa vie, c'est long. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on sait que 10 à 15% des emplois vont être supprimés dans les 10 ans qui
viennent.
Ils vont être concentrés et, la moitié des emplois vont se transformer dans les 10 ans. Donc, la question, c'est comment on appréhende ce changement qui est liée à la révolution numérique.
Précisément.
À la transition écologique. D'ailleurs, les nourritures à base d'insectes, c'est la transition écologique. Comment on appréhende tout ça? Non pas comme des menaces simplement, mais comme des opportunités.
Alors, Nicolas, on en a beaucoup parlé cette semaine. Vous avez lancé votre appli qui permet à tout le monde de savoir combien il peut dépenser en formation. Oui. J'ai essayé de me connecter hier, ça ne marchait pas. Alors ce matin, ça marche, mais
Je vais vous faire la démo à la sortie, parce qu'alors franchement, on a que des feedbacks.
De temps en temps, le système plante.
Les gens disent que c'est facile.
Ça peut arriver, oui.
Il y a des pointes d'explosion.
Il y a une pointe qui disait, voilà, il y a trop de monde qui se connecte, on ne peut pas se connecter.
Vous répondez, vous allez voir.
Bien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que quand on voit que voilà, vous avez droit à 1000 euros, 1500 euros de formation, bah, finalement que certains utilisent ce crédit pour des choses qui ne sont pas forcément les plus utiles pour leur métier?
D'abord, je voudrais dire ce que c'est. Là, dans votre iPhone, vous avez une révolution culturelle. Pourquoi? Parce que demain, la formation tout au long de la vie, ça sera aussi important pour la justice sociale, pour le développement économique, pour la compétitivité, pour l'avenir de chacun, que la formation initiale. Pourquoi? Parce qu'on va changer, je le disais, de métier, d'entreprise, même de statut. On peut passer d'entrepreneur à indépendant, à fonctionnaire, toute sa vie. Et donc, le sujet, c'est est-ce qu'on est pénalisé parce qu'on n'a pas pu faire beaucoup d'études au départ, ou on est pénalisé parce qu'on est obligé de rester dans un métier, parce qu'on ne peut pas choisir, ou bien, et c'est le droit qu'on fait, on est le premier pays au monde qui fait ça, depuis jeudi, 25 millions de Français, tous les salariés du secteur privé lucratif et non lucratif et tous les demandeurs d'emploi ont droit à un crédit formation. Vous savez, la Haute-Lagne, on a eu plein d'appels à la Caisse des dépôts et consignations qui gère le système pour le compte du ministère du Travail. Vous savez ce qu'ils disaient les gens sur la Haute-Lagne? Ils disaient, mais c'est vrai que j'ai 1200 euros, c'est des vrais euros. Ils ne croyaient pas qu'ils avaient un vrai droit. Et moi, ça m'intéresse. Un droit qu'on vote...
Il y a eu beaucoup de téléchargements de l'application.
Là, c'est assez incroyable. On est en deux jours à 200 000 téléchargements, ce qui, dans cet univers-là, est beaucoup. Et je pense qu'on attend 1 million de personnes l'année prochaine qui vont utiliser cette formation. Alors, pour négocier une possibilité d'évolution de carrière, on a eu beaucoup de témoignages jeudi de gens qui disent « mais moi je vais me former à ça, puis je vais dire à mon employeur ben, « là moi je suis prêt à prendre des responsabilités en plus, parce que je parle anglais, parce que j'ai maintenant j'ai le CACES, parce que j'ai une permis poids lourd, parce que je me suis formé à l'informatique ». D'autres c'est pour changer de vie, changer de métier, changer d'entreprise. C'est la liberté. Moi, je crois que le monde du travail de demain, ce n'est pas simplement l'agilité des entreprises, c'est aussi que chacun puisse dire ben moi, je peux mener, c'est mon droit et c'est aussi ma liberté.
Petite question, vous citiez quelqu'un qui découvre qu'il a 1200 euros de droits sur son compte. Est-ce que ces 1200, on pourrait les céder éventuellement à vous avez un conjoint qui a perdu son emploi, qui veut se former.
Non.
Est-ce que vous pourriez le céder
à
cette personne?
Pour l'instant, c'est un droit pour chacun, mais votre conjoint, il y a droit aussi. Donc,
il n'a pas forcément le même montant.
Oui, non, mais ça, pour l'instant, moi, je crois
parce que les formations, elles coûtent quand même très cher. Il y a plusieurs questions.
Moi, je crois que c'est un droit pour chacun. Vous ne dites pas à l'école, je vais laisser ma place à mon frère pour aller à l'école. Bon, eh bien, tout au long de la vie, vous aurez besoin de vous former pour faire une progression de carrière ou changer de métier et avoir la liberté. Parfois, si vous avez eu un problème de santé, parfois, vous avez juste envie de faire un autre métier ou vous avez faire le métier que vous rêviez de faire. Je ne vois pas pourquoi chacun n'aurait pas ce droit-là. Céder, ça veut dire renoncer à son droit. Eh bien, on ne renonce pas à un droit à l'éducation, à la formation, comme on ne renonce pas à un droit à la santé. C'est un droit fondamental. Je crois qu'on est en train, là, de parler d'un droit fondamental. Sur les coûts, alors c'est intéressant. Les coûts, bah maintenant il y a la transparence, parce que là-dessus, vous n'avez pas simplement vos droits, votre livret A de la formation que vous ignoriez, que vous avez maintenant. Vous avez déjà 130 000 offres de sessions de formation. Il y en aura plus demain. Mais tout de suite, vous cherchez, il y a un moteur de recherche très simple, vous cherchez le CACES, l'informatique, l'anglais. Vous avez tout de suite toutes les offres comparées en contenu, en coût et géolocalisées près de chez vous. Vous savez quoi, ce qu'on a observé depuis deux jours,
parce qu'on a quand même... Les prix baissent.
Eh bien, il y a déjà des prix qui baissent. Parce que ceux qui exagèrent, bah, ils n'auront pas de clients. Et donc, je crois que le fait que le pouvoir du citoyen de choisir sa formation, en plus de ce que font les entreprises, ça va aussi aider à réguler le marché, en plus de ce qu'on fait en certification. Question de Nicolas Barré, je n'ai pas répondu. Moi, les gens qui disent que... Je sais qu'il y en a qui le disent et qui le pensent. Que les citoyens ne sont pas assez majeurs pour savoir ce qui est bon pour eux. Bah, moi, je n'ai pas la même vision du monde. Je pense que personne... On n'achète pas une savonnette. On achète un droit à la formation. C'est une formation. Après, il faut s'engager dans la formation. Donc, les gens ne vont pas passer du temps à se former pour le plaisir de se former, ils vont le faire parce que ça correspond à quelque chose d'important pour eux. Donc moi, je fais confiance à nos citoyens.
On a bien compris effectivement cet aspect très important de cette révolution numérique. Il y a un autre aspect de la révolution numérique qui a d'autres conséquences également. Ce sont les plateformes justement de l'économie par Internet qui, elles, créent de la précarisation, remettent des divisions du travail comme on n'a peut-être plus vu depuis le 19e siècle, certains disent, et recréent une forme, au fond, de tâches extrêmement divisées. Est-ce que ça... vous arriverez à le réguler. Est-ce qu'il faut pour cela, par exemple, un revenu minimum universel pour s'adosser à la précarité qui est créée par cette même révolution numérique que vous n'arrêtez pas de porter ONU ?
Je ne porte pas ONU la révolution numérique. Je dis qu'en France, où on a une vision où on met l'humain au cœur,
mais là, regardez, la plateforme Internet n'est pas l'humain au cœur.
Du coup, là, on utilise la technologie au bénéfice des... Oui, je vais y revenir, mais là, on utilise la technologie au bénéfice des concitoyens. On ne soumet pas...
Ça, on l'a compris. Maintenant, non, mais je vous pose la question sur la phase B.
Et je vais d'ailleurs donner un autre exemple. Pour les personnes qui n'ont pas du tout de diplôme, ou les personnes en situation de handicap, et c'était cette semaine, la semaine du handicap, j'ai lu Sophie Clézel qui est là, et qui fait un boulot extraordinaire sur ce sujet, et qui embarque tout le gouvernement sur ce sujet. Eux, ils ont 800 euros par an. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi lutter contre les inégalités. Donc, il faut donner plus de chances. C'est 500 euros
personnes handicapées
pour tous,
au chômage encore.
Sauf 800 euros pour ceux qui sont en situation de handicap ou qui ont de bas niveau. Or, ils sont 500 000 à Pôle emploi. Et ça, c'est notre combat. On était avec le ministre Macron et Sophie Clézel lundi.
Je voudrais vous entendre à ce sujet.
On mène des actions. Oui, je vais y venir. Mais je dis juste que c'est un outil de justice sociale en même temps que de compétitivité économique.
Maintenant, répondez à cette question.
Oui, je réponds toujours aux questions.
La phase B, l'économie précarisée par les plateformes Internet, comment vous arrivez à réguler, à contrôler ça ?
Les plateformes Internet, comme souvent une révolution technologique, ça apporte des risques et des opportunités. Là où il y a des opportunités, c'est qu'il y a énormément de gens qui n'avaient pas de travail, qui sur les plateformes ont trouvé un travail et qui d'ailleurs demandent à rester indépendants. Attendez, je dis d'abord ce qu'eux disent. Ils disent, et plus de 9 sur 10 veut rester indépendant, parce que c'est aussi une flexibilité d'horaire, une manière, un rapport au travail. Tout le monde n'a pas envie d'être salarié, notamment dans les jeunes générations. Et ça, donc, ça a amené un accès à l'emploi de parfois de gens qui
mais
n'avaient pas de travail.
Mais ça crée un statut de micro-travailleur.
Ensuite, c'est pas parce qu'on veut être indépendant qu'on veut pas de protection. Et toute personne qui travaille, qu'elle soit salariée ou indépendant ou micro-entrepreneur, a besoin de protection. Donc là-dessus, on est en train de progresser. On est un des premiers pays, là aussi, en Europe et dans le monde, à avancer là-dessus. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on fait dans la loi l'homme sur les mobilités que porte Elisabeth Borne et qu'on a travaillé là-dessus qu'est-ce qu'on dit ? On dit d'abord le droit à la déconnexion. On dit le droit de refuser une course parce que si la course, vous y retrouvez pas financièrement, jusqu'ici, c'est pénalisé. Et puis, il y a déjà une assurance maladie et travail. Et dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les plateformes doivent payer aussi mon compte formation puisque beaucoup de gens qui travaillent dans les plateformes, ils n'ont pas beaucoup de diplômes, ça leur a permis d'accéder à un emploi. Enfin, ils n'ont pas forcément envie de le rester à ce niveau-là toute leur vie. Et c'est un peu comme sur les autres sujets. Et donc, eux, ils auront, entre la plateforme et la cotisation générale, ils auront 1 000 euros par an pour pouvoir aussi évaluer. Ça n'est pas fini. On a créé dans la réforme assurance chômage un filet de sécurité pour les indépendants, qui n'existait pas aussi. Et pour moi, c'est une question qu'on va porter au niveau européen. Et on s'est engagé, dans notre plateforme européenne, à aller le porter au niveau européen. Parce que les plateformes numériques, elles sont essentiellement américaines et chinoises. Et je pense que le poids de l'Europe, pour mettre une meilleure régulation sociale, aussi une représentation de ces travailleurs indépendants, mais qui ont besoin d'être représentés pour discuter avec les plateformes, faut qu'on l'organise. On n'est pas au bout du chemin, mais on est parmi les plus avancés et on va continuer.
On n'est pas au bout du chemin, effectivement. Encore d'autres questions de société très importantes. On se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve notre invité, Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Question de Nicolas Barré.
Oui, il y a eu des manifestations très importantes hier dans toute la France contre les violences faites aux femmes. 49 000 personnes à Paris, entre parenthèses, c'est 10 fois plus que les Gilets jaunes la semaine précédente. C'est quoi la suite maintenant que la balle est dans votre camp ?
D'abord, bien sûr, en tant que ministre, comme ancienne RH, mais d'abord comme femme, moi je me sens extrêmement solidaire du sujet des violences faites aux femmes. J'en connais, on en connaît toutes, y compris dans nos proches. Et je pense que c'est un des gros fléaux de la société. Tant qu'on est dans une société d'une telle violence, on n'a pas fini collectivement. Et je crois que c'est bien que tout le monde y mette la main à la pâte. Alors, la question, demain, moi, je salue l'initiative de Marlène Schiappa avec le Premier ministre. Et demain, on sera de très nombreux ministres. Bien sûr, Marlène Schiappa, Nicole Belloubet, Christophe Castaner. Mais finalement, on est beaucoup à pouvoir faire quelque chose sur le Grenelle contre les violences faites aux femmes. Et la société civile, les associations, partenaires sociaux sont très mobilisés sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire chacun ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le champ du travail ? C'est pas le premier jour, parce que ça se passe plutôt à la maison, dans l'espace privé.
Oui, mais c'est un espace important. Mais quand même, qu'est-ce que vous allez porter,
alors ? Qu'est-ce qu'on peut porter ? Alors moi, j'ai une conviction. C'est que d'abord, pour pouvoir dire non, pour pouvoir partir quand la situation est extrêmement violente, il faut l'autonomie financière. Quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas dire non. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans une situation où elles n'ont pas les moyens de dire non et de dire non, là c'est stop. Et de quitter une situation qui est
alors, qu'est-ce violente. Que vous allez
donc,
faire
donc, deux choses. La première, c'est ce qu'on a fait avec les partenaires sociaux dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en mettant en place cette obligation de résultat, cet index sur l'égalité des salaires et des carrières pour les femmes. Parce que si vous avez le même salaire, c'est la même carrière, ben je vais vous dire, vous n'avez pas le même pouvoir.
Ça ne répond pas à une urgence.
Et la deuxième chose, en urgence, avec le groupe de travail qui s'est mis en place sur ce Grenelle, pour ce Grenelle, avec des responsables d'entreprise, avec des partenaires sociaux, avec les associations, on a travaillé. Et moi, je porte avec ce groupe de travail une idée qui est qu'on devrait pouvoir, il faut qu'on regarde si on peut permettre qu'on a l'épargne salariale pour les victimes de violences de pouvoir le débloquer. Aujourd'hui, vous débloquez en cas de divorce, de mariage, de déménagement, de changement professionnel. Mais quand vous êtes victime, ça, il y a besoin d'argent d'urgence.
Mais c'est possible ou c'est pas possible ?
Pas aujourd'hui. Mais ça, c'est un des sujets que je porte avec ce groupe de travail.
Ce qui veut dire que demain, par exemple, ça peut faire partie des annonces.
Ça fera partie des sujets qu'on discutera demain.
Et qui pourront être annoncés demain.
Et ben, on verra, mais on le porte très fort. Parce que je crois que c'est vraiment pouvoir débloquer de l'argent tout de suite. C'est ce qui vous permet de claquer la porte et de vous sauver. Et évidemment, il faut tout le soutien de tout le monde. Alors, ce qu'on fait aussi, et demain, on annoncera aussi des choses là-dessus, c'est renforcer le tissu de solidarité au sein de l'entreprise. Parce qu'on ne se coupe pas en tranches de saucisson, entre votre vie de famille et votre vie professionnelle. Donc, entre les médecins du travail, les responsables RH et des syndicaux de lutte contre le harcèlement dans le travail qu'on a mis en place là aussi dans la loi l'année dernière.
Ça veut dire une meilleure coordination, un meilleur dialogue au sein de ces instances.
Information, soutien. Voilà, il y a des choses qu'on annoncera aussi demain là-dessus, parce que c'est important que la communauté du travail puisse être aussi une parmi les différentes communautés, avec les médecins et d'autres, et évidemment la police, puisse être ceux qui entendent, écoutent et aident.
On va attendre effectivement que tout cela soit confirmé, ce que vous avez annoncé ce matin au grand rendez-vous. Un autre sujet qui concerne le monde du travail, Damien Fleurot.
Oui, à propos de cette société de vigilance présentée et annoncée par le président de la République il y a quelques semaines, et la radicalisation en entreprise, est-ce que cela pourrait être un motif pour licencier certains salariés ?
Alors, qu'est-ce que dit le droit là-dessus ? Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses dans le passé. C'est que l'entreprise est un espace privé. C'est-à-dire au sein de l'entreprise. Donc, c'est pas la même chose que l'espace public, c'est pas la même chose que l'école, par exemple. C'est un espace également où on ne fait pas état de ses convictions religieuses et politiques. Et la jurisprudence, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle fait une différence entre au sein de l'entreprise et quand c'est face à un public, notamment dans les entreprises publiques. Donc, ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est plutôt régi par la jurisprudence et par le droit actuel. Ce que disent les entreprises, que ce qui est compliqué, c'est pas ça. C'est quand les convictions religieuses amènent des comportements qui sont inadaptés. Par exemple, refuser de serrer la main aux femmes.
C'est justement la question.
Donc, c'est justement ça le sujet. Ce que dit Valérie Pécresse, là, on licencie dans ces cas-là.
C'est ce qu'elle demande,
quand il y a ces signes. Est-ce que c'est possible
alors,
ou pas ?
Il faut vérifier. Il faut toujours faire attention sur ces choses. Un licenciement, je dis toujours qu'il faut faire attention. Il faut vérifier, parce que les rumeurs, les faits, il faut vérifier que c'est une discrimination. Donc, ce n'est pas à cause de l'aspect religieux, mais si vous faites une discrimination entre les sexes, par exemple, ça n'est pas possible. Donc, ce qu'on a fait, d'ailleurs, on a fait un guide pour les entreprises qui, souvent, ne savent pas comment faire tant que la personne n'a pas été par exemple, juger pour un comportement qui serait discriminatoire, parce que l'entreprise, elle n'est pas un juge. Et d'ailleurs, il ne faut pas que le soit. Il ne faut pas confondre les rôles. Et donc, mais par contre, on a fait un guide qui permet de savoir comment faire dans ces cas-là. Et je crois que ça, c'est utile pour qu'il y ait des bonnes pratiques qui se mettent en place.
Mais il faut le faire
en faisant attention à bien garder la liberté de conviction de chacun. Et par contre, évidemment, on peut sanctionner l'entreprise et même on doit sanctionner des pratiques discriminantes qui peuvent être liées à la couleur de la peau, au sexe ou autre, quelles que soient les raisons pour lesquelles les gens le font.
Juste pour bien comprendre en un mot, parce que vous avez été extrêmement nuancé, vous n'êtes pas contre ce principe.
Quel principe ?
De justement d'avoir comme motif de licenciement des comportements liés à une radicalisation.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, on peut pas.
Prouvez-le en amont, c'est possible ?
C'est pas ça. Non. L'entreprise n'a pas à juger de la religion. Voilà, ça, non. Si on rentre là-dedans, on va faire. Ça n'a aucun sens. Par contre, si pour des raisons, quelles que soient les raisons, et par lequel il peut y avoir des convictions liées à la radicalisation. Mais à la limite, l'entreprise n'a pas à savoir les raisons. Si quelqu'un a un comportement discriminant, alors là, oui, l'entreprise peut et doit agir. Mais elle s'intéresse pas à la cause. Il y a des juges pour ça. Il y a une police. C'est l'ordre public qui doit juger de ça, de ce qui est radicalisation. Ça n'est pas les entreprises. En revanche, elles ont leur part de rôle de lutter contre toutes les discriminations, quel que soit leur motif.
Damien Fleurot.
Le président de la République souhaite que davantage de ministres soient ancrés sur le terrain. Alors, vous étiez en Suède, mais sur le terrain français, en territoire national, peut-être aussi avec les élections. Est-ce que vous y êtes prête ?
Alors, votre question m'amuse parce que je passe ma vie sur le terrain.
Oui, mais la question liée aussi à un mandat local,
alors,
en fait.
Oui, alors moi, j'ai choisi de ne pas me présenter aux élections municipales. Et c'est un gros avantage, c'est que je vais faire la campagne municipale, mais partout. J'avais déjà fait ça pour les européennes, j'ai déjà commencé, je vais aller soutenir deux candidats.
C'est pas contenu en campagne, pas candidate, c'est ça ?
Oui, non, mais il faut que certains soient candidats.
Finalement, très peu, en fait.
Oui, mais alors, vous voyez, il y a un an, on vote la loi, après un an de concertation. Le 10 dé, le jour où ça devient important, c'est quand ça arrive à nos concitoyens. Eh bien, on a fait beaucoup de réformes dans le ministère du Travail. L'apprentissage, je me réjouis tous les jours, on est à plus 8%. Mais il y a encore tellement de jeunes. Non, mais une réforme, il faut que ça amène plus d'emplois, il faut que ça amène plus d'apprentis, plus de gens qui peuvent évoluer professionnellement, plus d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Moi, mon rôle, c'est de continuer de porter ça, jusqu'à ce que ça arrive à tous nos concitoyens.
Muriel Pénicaud, vous avez dit à l'instant même.
En revanche, je ferai la campagne, bien sûr, pour soutenir nos candidats et je la ferai activement.
Effectivement, vous nous le dites, on le sait, on l'a compris, on l'a vu, vous avez pris goût à la politique. Donc, on regarde aussi un petit peu les cohérences de votre mouvement politique, en tout cas de La République En Marche. On voudrait comprendre, par exemple, la cohérence de La République En Marche, en ce cas, Trappes. La République En Marche soutient un maire sortant qui a 83 ans, qui en est à son 4e mandat et qui est opposé à une liste qui est soutenue par le Modem, qui est votre allié dans la majorité. Dans ce cas précis, quel message qui est envoyé ?
Alors, moi, je ne vais pas vous commenter toutes les décisions de la Commission nationale d'investiture, parce que ça
peut être long. Non, il y a un problème de cohérence.
L'idée, non,
vous deviez changer les usages, les gens, les modes de fonctionnement.
Non, ce qu'on s'est dit, c'est vraiment notre motto pour les municipales, c'est qu'il faut rassembler. Le maire, c'est un rôle très particulier dans la politique dans notre pays. C'est un rôle essentiel. Je dirais, les deux élections auxquelles sont le plus attachés les Français, c'est le maire et le président de la République. Et c'est les deux proximités, d'une certaine façon, les plus fortes. Donc, le maire, ça doit être quelqu'un qui rassemble.
C'est pas évident donc, de rassembler, regardez à Paris ce qui se passe dans votre majorité.
Oui, voilà, il y a encore un peu de boulot à Paris, je vous confirme, pour rassembler, autour de Benjamin Griveaux, qui était celui qui a été désigné. Donc, j'en appelle à Cédric Villani. À un moment donné, il faut aller ensemble sur des municipales.
Vous l'appelez à quoi ? À se retirer ? À rejoindre, Benjamin Griveaux ?
À rejoindre. Mais ce que je veux dire, c'est que en même temps, qu'on porte depuis le début auprès du président de la République, qui a été en marche, il est toujours plus large que les catégories classiques. Et ça, on va continuer comme ça. On ne va pas changer. On ne va pas devenir un parti comme un autre. On n'en a aucune envie. Et les marcheurs n'en ont aucune envie. Je peux vous dire que les marcheurs, ils seront bien vivants sur le terrain.
Oui.
Les jeunes avec Macron aussi. Et ils ont envie de continuer à rassembler. Donc ça veut dire que dans ceux qui sont adoubés par la Commission nationale d'investiture, il y a des marcheurs, mais il y a aussi des gens qui viennent de la droite et de la gauche et qui se retrouvent dans quelque chose pour
cette question. Nicolas Barré.
Vos marcheurs, on a quand même le sentiment que ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour, qui sont le socle de sa majorité, ils doutent aujourd'hui. Est-ce que c'est un mouvement passager ou est-ce que c'est quelque chose de plus fondamental ?
Vous étiez à la convention à Bordeaux des marcheurs ? Moi, j'ai vu des gens extrêmement engagés. Dans beaucoup de mes déplacements,
Toutes les études d'opinion récentes sérieuses disent que l'électorat du premier tour
les marcheurs,
doute.
Les jeunes à Macron, etc. Oui,
Mais le doute, il est dans l'électorat. Là, dès que vous êtes militant.
Dès que vous êtes au gouvernement, Je pense que c'est, d'une certaine façon, c'est beaucoup plus facile d'être toujours dans l'opposition qu'au gouvernement. Parce que quand vous êtes au gouvernement, faites des choix. Et la politique, ça ne peut pas être parfait. C'est le meilleur choix pour la société qu'on estime à un moment donné.
Après et donc, deux ans
c'est
et demi
sûr
mandat,
qu'il y a des moments. Et moi, je suis assez fière, parce que je suis marcheuse aussi, je suis assez fière que dans ce mouvement, eh ben justement, on puisse s'exprimer. Il y a des sensibilités un peu plus ceci, un peu plus cela.
Et Marine Le Pen toujours aussi forte deux ans et demi après.
C'est un peu sportif quelquefois, mais moi je trouve que c'est bien, je trouve que c'est assez moderne. Les partis Godillot, c'est fini. Ça n'intéresse plus personne. Et moi je crois qu'il faut qu'on accepte ce débat qui est quelquefois, oui, qui fait partie de la vivacité d'En Marche.
C'était le grand rendez-vous de Muriel Pénicaud. Merci, à bientôt.